pour moi, faire un film, c'est une, c'est plus une certaine façon de vivre des choses. De, je vis pas tellement avec tout ça, parce que finalement, le moment où on tourne vraiment par rapport à une année de travail, c'est tellement court, c'est tellement relatif. Donc peut-être que le moment où je tourne vraiment, c'est pas le moment où j'ai le plus de plaisir.
C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau, une aussi belle preuve d'amour, je suis heureuse.
Ah ben le théâtre, ça n'a rien à voir, c'est tout à fait différent. Le théâtre, on joue d'une traite du début jusqu'à la fin. Ça doit être une grande satisfaction, ça aussi. Mais moi, bon, mon problème, c'est le trac et la peur du spectateur.
Tout le monde s'embrasse dans le théâtre.
Pas forcément sur la bouche.
Moi, je vous embrassais sur la bouche.
Oui. Le soir de la générale, pendant le rideau.
Non, non, sûrement pas.
Vous m'avez embrassé sur la bouche.
Vous ne me dites pas qu'il y a deux femmes en moi?
Si, justement. Il y a deux femmes en vous.
Je ne suis pas une vraie actrice.
Ho capito che ti amo. Quando ho visto che bastava un tuo ritardo. Per sentire svanire in me l'indifferenza. Per temere che tu non venissi più.
Un montage avec la voix de Catherine Deneuve, réalisé par Jean-Christophe Francis. Car depuis lundi et toute la semaine, le journal Le Monde a publié une série d'été en 6 volets consacrée à notre icône nationale, celle qu'on présente souvent comme le monument du cinéma français. Présentation de l'enquête et boîte noire en compagnie de son autrice, la grand reporter au Monde, Raphaël Baquet. Bonjour Raphaël Baquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone ce matin. D'abord, un mot, Raphaël Baquet, du choix de Catherine Deneuve comme sujet et des choix de vos sujets en général, puisque votre tropisme a d'abord été, disons, plutôt politique. On vous sait en collaboration récurrente avec Ariane Chemin. Vous avez réalisé un portrait, par exemple, de Dominique Strauss-Kahn, une biographie de Jacques Chirac, mais aussi une autre de Karl Lagerfeld, un livre sur l'ancien directeur de Sciences Po, Richard Descoings, un autre sur la ville de Trappes. Alors comment et à partir de quoi choisissez-vous vos sujets qui paraissent comme cela éclectiques et pourquoi Catherine Deneuve?
Parce qu'à vrai dire, elle raconte aussi un bout de la société française. Elle est, vous l'avez dit, notre icône nationale et bien plus largement, vraiment dans le monde entier, elle incarne la France. Or, c'est une femme qui a évidemment marqué le cinéma, mais qui reste un mystère. Donc, ce qui m'intéressait, c'était de plonger dans son parcours, de raconter comment elle travaille. Et puis, j'ai une admiration aussi personnelle pour l'actrice. Donc, évidemment, il faut avoir envie aussi de passer plusieurs mois en compagnie de quelqu'un. Et c'est ce qui a dirigé mon choix.
Vous dites, Raphaël Baquet, que vous avez passé plusieurs mois en sa compagnie. Mais en l'occurrence, vous deviez, et c'est ce que vous expliquez dès votre premier volet, vous deviez la rencontrer, vous deviez faire un long entretien avec elle. Et puis une heure avant, alors que tout avait été calé des mois avant, une heure avant, Catherine Deneuve a annulé.
Oui, et à vrai dire, je ne l'ai pas pris pour moi parce que je ne suis pas la première. Ce qui m'a frappée d'ailleurs en plongeant dans son histoire, c'est à quel point sans cesse elle avance et elle recule lorsqu'il s'agit de parler d'elle-même. Donc elle a signé je ne sais combien de contrats avec des éditeurs pour raconter ses mémoires et sa vie et au dernier moment, elle a annulé les contrats. Son dossier de documentation au Monde, vous savez, on a une grosse documentation au Monde. Le dossier Catherine Deneuve fait plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Mais il est plein d'interviews ratées, au fond. Et elle organise elle-même son inaccessibilité, si vous voulez, comme une vraie star. Et donc, toutes les interviews qu'elle donne sont tellement encadrées qu'au fond, elle n'y dit pas grand-chose. Et c'est ça qui m'a frappée chez cette femme intelligente, qui choisit avec beaucoup de soin comment construire sa filmographie. Elle a une espèce de crainte de parler, non pas de choses intimes, c'est même pas ça qu'on lui demande, mais de parler tout simplement de son travail qui, évidemment, suscite la curiosité. Et c'est ce qui a un peu dirigé mon enquête.
Alors, d'une certaine façon, je vais renverser la question. Pourquoi, dans ces conditions, aviez-vous envie de la rencontrer alors que vous savez qu'elle ne dira rien, plutôt que d'emblée faire une série sur elle sans même avoir à la rencontrer?
Oh, bah d'abord parce que c'est un peu la règle du journalisme, si vous voulez. Ça me paraît tout à fait normal de solliciter les gens sur lesquels on enquête, mais ça n'obère pas l'enquête, si vous voulez. Ils disent non, bah on enquête quand même. Voilà, donc ça n'a pas changé énormément de choses parce que peut-être qu'effectivement, elle ne m'aurait rien dit comme elle n'a rien dit à des quotités d'intervieweurs.
Sinon que vous avez, enfin le journal a reçu dans la foulée une mise en demeure de la part de son avocate. Alors vous dites dans vos articles qu'il existe une jurisprudence Catherine Deneuve. Mais en revanche, au journal, alors que vous aviez quand même eu des sujets, des enquêtes, en particulier par exemple avec Karl Lagerfeld, vous aviez eu peut-être des ennuis, enfin vous craignez en tous les cas d'avoir des ennuis avec la justice. En revanche, une mise en demeure avant même que l'enquête ait lieu, c'est une première.
C'est rarissime, vraiment rarissime. Et c'est vrai que c'est étonnant parce que chaque année, si vous voulez, on fait une grande série d'été sur un personnage qui raconte l'époque, qui traverse une partie du siècle. Mais bon, ça n'a pas changé la nature de l'enquête, si ce n'est que tout a été relu par un avocat.
Oui, c'est ça. J'allais vous demander comment on fait pour travailler sereinement avec une épée de Damoclès sur la tête, en se disant, oui, il faut quand même que je ménage la chèvre et le chou pour pas qu'on me tombe dessus ensuite.
Moi, j'ai pas changé grand-chose. Simplement, j'ai fait une enquête normale. Et au fond, à part quelques témoins, si vous voulez, la plupart d'entre eux ont parlé quand même à visage découvert. Elle est puissante, Catherine Deneuve, dans le cinéma. Hein. Elle est toujours puissante, à vrai dire. Sur son seul nom, peuvent se financer des films. Et évidemment, les producteurs, les réalisateurs craignent parfois de parler d'elle. Et lorsqu'ils ont su, évidemment, parce qu'elle a fait savoir qu'elle ne participerait pas à l'enquête du Monde, évidemment, les gens étaient prudents. Mais finalement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait relire par un avocat, on a changé certaines formulations, notamment pour ce qui concernait, à vrai dire, à la fois la vie privée et son histoire avec François Truffaut, mais aussi son rapport avec l'argent, hein, qui sont les deux sujets sensibles chez Catherine Deneuve.
Et vous avez quand même intitulé cette enquête, la biographie non autorisée. Donc c'est quand même assez provocateur, Raphaël Baquet.
Mais parce que c'était tellement frappant de voir à quel point elle empêche systématiquement non seulement toute enquête incisive, mais même tout portrait un peu profond, si vous voulez, d'elle. À mon avis, à son détriment, d'ailleurs, parce que je crois que la série montre au contraire toute la complexité de sa personnalité, et elle n'en sort pas amoindrie. Je crois qu'au contraire, ça trace d'elle un portrait très riche. Alors bien sûr, c'est pas une sainte, ni une icône parfaite, mais justement, c'est ce qui la rend intéressante.
Alain Baboncou est resté avec nous, Raphaël Baquet, curieux, attentif, il est en train de vous écouter attentivement et je crois qu'il a une question pour vous, ou peut-être un commentaire, Alain Baboncou.
Non, juste un commentaire, parce que j'ai toujours préféré les biographies non autorisées que les biographies autorisées dans lesquelles pratiquement la personne décrite a rangé son profil pour paraître bien. Et je voulais dire à Raphaël Baquet que Catherine Deneuve est l'actrice préférée de mon médecin aux États-Unis, ce médecin Amos Rikureja. C'est un Indien américain. La première chose, quand j'étais rentré dans son cabinet pour un bilan général comme chaque année, il m'a dit « Vous venez de France ?»« Oh, Catherine Deneuve !» Il a commencé à dire « Catherine Deneuve !» Et moi, j'étais là, extraordinaire. Deuxième fait, j'étais étudiant à Dauphine à l'époque. J'ai passé vers les Champs-Élysées. Je vois une femme qui venait. J'étais fasciné, elle venait. Moi, je suis très grand, donc elle est plutôt petite. J'ai dit, cette femme est belle, je l'ai vue quelque part. Et puis, on arrive pratiquement nez à nez, elle me regarde, je la regarde, elle sourit, elle passe, je souris, et voilà, je passe aussi, elle se retourne, je me retourne. Et ça, c'est un souvenir immarcessible, ça ne disparaîtra jamais de moi. J'ai croisé Catherine Deneuve qui s'est retournée pour me voir et moi aussi je me suis retourné pour la voir comme si j'aurais pu draguer une fille normale dans la rue. Vous voyez, j'ai raté d'être peut-être
mais c'est ça, point de suspension. Voilà. Mais ça, c'est un phénomène d'ailleurs intéressant que vous relevez, Raphaël Baquet, dans l'un de vos volets, à quel point elle exerce de la fascination. Elle a exercé de la fascination non seulement sur les cinéastes, vous parlez notamment de Buñuel, ouais, mais le désir, l'image d'ailleurs double aussi de Catherine Deneuve et le fait qu'elle exerce cette fascination sur tout le monde finalement.
Oui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'évidemment, elle est un objet de désir et de fantasme pour les hommes. Mais à vrai dire, elle est non seulement notre tour Eiffel, mais elle est notre rêve à tous. Elle s'est inscrite dans notre imaginaire parce qu'il y a 3 ou 4 générations qui l'ont vue en princesse dans Peau d'âne. Et puis bien sûr, ceux qui peuvent fantasmer sur son extraordinaire beauté dans Belle de Jour, si vous voulez. Donc vraiment, elle s'adresse à chaque catégorie de population, à chaque génération surtout, évidemment. Quand on a une longévité pareille dans le cinéma, imaginez qu'elle a plus de 75 ans, mais elle a commencé à 17 ans. Donc vraiment, elle a une longévité exceptionnelle. À vrai dire, aucune autre actrice aujourd'hui n'a une telle longévité. Donc bien sûr, chacun d'entre nous a un petit bout de son existence imprimé dans sa mémoire.
Alors, vous avez construit votre série donc en 6 volets. D'abord, une introduction avec quelques généralités et la présentation de l'objet même de cette enquête. Puis, un portrait de sa sœur, Françoise d'Orléac, disparue dans un accident de voiture en 1967 et qui était très, très importante et qui continue de l'être d'ailleurs pour Catherine Deneuve. Puis donc, cet objet de désir, l'image de Catherine Deneuve et puis peut-être ses rivalités avec notamment Romy Schneider où on apprend que Catherine Deneuve devait jouer Rosalie dans César et Rosalie de Claude Sauté avant qu'elle ne décline et que le rôle soit proposé à Romy Schneider, François Truffaut, bien entendu, le rapport à l'argent de Catherine Deneuve. Et vous terminez votre enquête par l'article qui paraît aujourd'hui même dans Le Monde, le féminisme. Quel est son rapport au féminisme en dehors de ce dernier article qui avait fait beaucoup parler de lui pendant MeToo, Raphaël Baquet?
Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle incarne une sorte de rêve du féminisme. Une femme libre, indépendante, qui a élevé seule ses enfants, qui a gagné son propre argent et qui vraiment toujours a mené sa vie comme elle l'entendait. Or, elle n'est pas féministe. Elle a signé l'appel de 343 en faveur de l'avortement en 1971, mais je le raconte, elle le fait parce que Nadine Trintignant, à l'époque, avec laquelle elle vient de tourner, essaie de la convaincre de signer. Et donc, tout de suite après, elle en est furieuse parce qu'elle craint que ça nuise à sa carrière. Et au fond, toujours, tout au long de sa carrière, elle n'a jamais voulu revendiquer pour les femmes parce qu'elle avait peur justement de ne plus être cet objet de désir qui a beaucoup contribué aussi à son succès. Donc ce qui est très intéressant chez elle, c'est ce paradoxe d'incarner une femme libre et indépendante et d'avoir au contraire toujours cherché à d'abord séduire, à être d'abord une femme qu'on aime, avant toute chose, plus qu'une femme qui revendique. Et c'est la dernière contradiction de Catherine Deneuve au fond.
Est-ce que cette enquête, de la même façon que celle que vous aviez consacrée à Karl Lagerfeld a donné un livre ensuite, va être publiée ou est-ce que vous avez le désir qu'elle soit éditée?
Non, à vrai dire, je ne crois pas. D'abord, c'est lourd, c'est dur comme enquête, c'est long. Ça paraît toujours, bon, parce que c'est une actrice, on a le sentiment que c'est une enquête pleine de paillettes et facile à faire, mais au contraire, c'est beaucoup plus difficile, à vrai dire. Moi qui enquête très souvent sur les hommes et les femmes de pouvoir, ceux qui exercent un pouvoir dans ce domaine, c'est-à-dire le domaine du cinéma, qui est un domaine aussi où on brasse beaucoup d'argent, au fond, sont encore plus difficiles d'accès, si vous voulez, qu'un chef d'État. Et donc, c'est vrai qu'elle a d'une certaine façon un peu désacralisé, et je dois dire que je ne me vois pas en faire un livre. Je ne suis pas sûre, d'ailleurs, que ça vaille un livre. Mais en revanche, c'était une formidable enquête à faire, et une série dans laquelle je me suis beaucoup amusée, j'ai souffert, j'ai ri. Enfin, c'est vraiment formidable le journalisme pour ça.
Bon, et en attendant, vous avez gagné vos vacances, Raphaël Baquet. Alors, bonnes vacances. Et je vous conseille, merci, pendant vos vacances, de vous précipiter sur Les Rumeurs d'Amérique d'Alain Mabankou, l'autobiographie américaine d'Alain Mabankou, que je remercie grandement d'être venu également
merci
ce matin.